Bonsoir Sophie Fontanelle, merci d'être là. On est heureux de vous recevoir à Bordeaux. Alors Sophie Fontanelle, vous êtes très polyvalente. Alors ce soir, vous venez pour présenter votre 19e roman. Moi, je suis un peu bluffée, admirable. Mais donc, on vous connaît en tant qu'autrice, on vous connaît en tant que journaliste, en tant que youtubeuse.
Non, youtubeuse, je suis pas.
Instagrammeuse.
Oui.
Instagrammeuse, pardon. Ne confondons pas tout. Prof de mode aussi, vous nous raconterez ça. Et vous avez aussi, vous nous avez donné l'habitude d'aborder les sujets les plus tabous et finalement les moments qui résument les différentes étapes de la vie d'une femme. L'apparition des cheveux blancs, la fin du désir sexuel ou l'abandon du désir sexuel, le naturisme. Donc vous osez tout finalement. Avec ce dernier livre, le 19e, donc, vous écrivez cette fois-ci sur les rides et finalement surtout sur le regard social posé sur la vieillesse. Allez, faites-nous un peu le pitch de votre livre.
Ah, bien sûr, je vais le faire. Mais pas qu'un peu. Sur la fin du désir sexuel, mon livre s'appelait L'envie.
L'envie.
Et c'était un bout de temps, il y a un bout de temps, c'était pour dire qu'en fait, c'est pas la fin du désir sexuel, c'est quand on a un désir sexuel qui ne trouve pas d'objet, en fait. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de dire aux femmes qu'elles ne plaisent plus, c'est que nous, toutes les femmes qui sont là, je pense, on va voir comment vous allez réagir, mais je crois qu'en fait, moi, c'est pas tellement qu'on me regarde plus, c'est que qui me plaît, en fait. À part des morts, genre Cary Grant ou Leonard Bernstein.
Et il y a quand même de quoi trouver.
Écoutez, je veux bien les vivre auprès de vous, si vous en avez. Mais moi, pas beaucoup. Et attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais bon, voilà, je trouve que c'est... cela dit, une fois que ça s'est posé, c'est pas pour dire que les hommes valent rien, au contraire. C'est parce qu'ils sont planqués. Ils sont... Voilà, ils ont leur révolution à faire comme on a fait la nôtre. Et, et voilà. Et pour le livre...
Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. C'est la différence entre désirable et admirable. Vous en fichez d'être désirable. Enfin, finalement, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas la désirabilité.
Moi, ça me ferait assez peur d'être là, comme je suis là devant vous, d'être considérée comme désirable par le plus grand nombre. Je serais effarée. Je voudrais pas sortir de chez moi. je crois que ce qui est important, et c'est d'arriver à être désirée et à désirer.
Ouais.
En même temps, j'ai dit dans une émission en Belgique, et ça est devenu viral, quand on a la chance d'avoir désiré, et en même temps qu'on désirait, que ça a été conjoint de désirer et d'être désiré, peut-être deux ou trois fois dans sa vie, ou une ou deux fois dans sa vie, peut-être même une fois dans sa vie, en fait. Tant mieux pour ceux pour qui c'est plus. Mais déjà, si c'est arrivé un tout petit peu, on a déjà le cul bordé de nouilles. J'ai dit, c'est tellement difficile, tellement rare. Donc, pour moi, quand j'ai écrit Admira, admirable, parce que je dis Admira, parce que le personnage s'appelle Admira, je me souciais pas que Admira soit désirable. J'allais ajouter, vous voyez comme quoi on a ces bons préjugés, de toute manière, Admira, elle a passé 70 ans, et comme si c'était pas possible, vous voyez. Mais surtout, c'était pas la question. Et quand j'ai parlé, quand j'écrivais le livre avec un producteur de cinéma qui m'a tout de suite dit « Oh là là, ça peut faire un film, etc. » Il faut absolument qu'elle le désire. Il faut absolument qu'elle soit avec un homme. Elle rencontre un homme. En fait, elle te prouve qu'ils font l'amour. Je lui dis « Mais tu veux pas lui foutre la paix ?» Je l'ai foutue dans le Péloponnèse, dans une carrière de calcaire, enfin de kaolin. Elle est heureuse. Elle met des grandes liquettes, des grandes chemises de nuit d'homme. Et elle est toute contente. Et elle nage. Et personne ne l'a fait chier. Tu veux absolument que je lui mette un homme qui la désire ? Je lui dis « Mais... C'est un homme qui l'aime que je vais lui mettre. C'est qu'elle est de l'amour. Et c'est ce que j'ai fait. Elle a une histoire. On ne sait pas si elle fait l'amour ou pas, ou si elle a fait l'amour avec cet homme, mais il y a quelqu'un qui est là et qui la trouve sublime.
Alors, c'est une histoire... Parce que du coup, le pitch, là, vous ne l'avez pas du tout fait.
Non. Vous voulez que je le fasse maintenant? Vous voulez le faire?
Non, je vais vous poser une question du coup, puisqu'on est parti comme ça. C'est une histoire de carte senior. Racontez cette histoire de carte senior, et donc à vos 60 ans, qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Racontez-nous ça, cette anecdote avec votre frère.
C'est vraiment né comme ça, c'est-à-dire que je venais d'avoir 60 ans, on était en Normandie, et j'ai dit à mon frère, je vais prendre un billet retour pour rentrer à Paris. Il me dit, oh là là, attends, il faut maintenant que tu aies la carte senior, on va tout de suite te la faire, tu auras une réduction. Carte senior quand on travaille dans la mode, voyez. Et en même temps, j'avais quand même envie de la réduc. Donc, on a fait la carte senior. Et je suis allée me promener juste après, et je me suis dit, voilà, mon monde, c'est maintenant carte senior. C'est et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a devant? Qu'est-ce qu'il y a devant d'excitant à avoir la carte senior? J'ai dit, mais qui y a comme femme devant moi? Et j'en trouvais, je voyais évidemment, je voyais Charlotte Rampling, que j'adore, mais je me disais, elle n'est pas un peu neurasthénique? Je l'adore, hein, mais elle n'a pas l'air complètement joyeuse. Je voyais, tout d'un coup, je pensais à Andy McDowell, mais je ne sais rien d'Andy McDowell. Ouais. Tout d'un coup, je pensais à Isabella Rossellini, mais je me disais, elle n'était pas encore en couverture, c'est arrivé après, un an plus tard, en couverture des magazines. Je me disais, ah, Isabella Rossellini, mais pareil, je ne sais rien d'elle. Donc, je me suis dit, je vais l'inventer, cette femme. Je vais l'inventer, cette femme qui a des rides, que tout le monde trouve sublime. Et la personne qui m'a interviewée tout à l'heure m'a dit, c'est un peu vous. J'ai dit, oh. Ouais, c'est un peu moi. Elle est sublime, en fait. C'est Angela Molina, quoi. Elle est magnifique. Je vais l'inventer. Je vais inventer cette personne qui est heureuse, vieille, et qui se pose des questions quand même par rapport à ses rides et tout ça, mais qui est heureuse, qui a une sagesse que j'aurai, j'espère, mais que pour l'instant, je suis pas encore complètement. Je me prends à la tête.
Et alors, c'est une histoire, mais c'est aussi moi, je dirais que c'est un conte philosophique. Alors, c'est écrit en vers, ça, c'est un sacré.
Non, c'est pas écrit en vers.
C'est pas écrit en vers. Vous vouliez l'écrire en vers.
Oui, voilà.
C'est hyper bien écrit. Si c'est pas écrit en vers, c'est hyper bien écrit.
Parce que c'est comme c'est écrit en vers au début. Il reste cette musique.
Voilà.
J'avais écrit avant Capitale de la douceur en vers, mais Capitale de la douceur, c'est écrit en vers, mais ça se lit comme une histoire. C'est d'ailleurs pour ça que ça a plu, parce qu'en fait, au début, on se dit la poésie. On a beau tous dire qu'on adore la poésie, dès qu'on en voit, on a quand même un peu. Et en fait, là, c'est le contraire.
Ouais,
c'est écrit en prose, mais c'est très poétique.
Oui. Et c'est un conte philosophique, oui ou non?
Oui. Bon. C'est tout à fait ça.
Et alors, vous êtes aussi journaliste. Vous auriez tout aussi pu écrire un documentaire, mais c'est pas du tout la forme que vous avez choisie. C'est le roman. Est-ce que ça vous donne certainement plus de liberté, puis ça vous permet d'inventer la fin, non, aussi quelque part?
D'abord, moi, je suis écrivain, écrivaine, comme on dit maintenant, et c'est bien. Mon monde, c'est la littérature. Même dans mon travail de critique de mode, je m'occupe de c'est les mots, mon monde. Donc, vous avez dit tout à l'heure que je suis journaliste, ce qui est vrai, mais j'ai pas la carte de presse, je la refuse parce que, mais c'est pourtant, je suis dans un journal, journaliste, mais un journaliste, il enquête. Moi, j'enquête pas, j'observe et j'invente. Et donc, je suis vraiment profondément quelqu'un qui écrit. J'ai, à une époque, je mettais sur mon compte Instagram « écrivaste ». Puis il y a quelqu'un qui a dit que c'était super prétentieux. Bon, alors j'ai enlevé.
Et vous mettez quoi maintenant ?
J'ai écrit. Pas... Je mets écrit. Je suis écrit. Écrivaste,
c'était pourquoi ? Écrit.
Parce que c'est écrire pour embrasser le vaste du monde, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un documentaire, c'est que c'est sensationnel les documentaires, je suis comme plein de gens, j'écoute Les Pieds sur Terre, d'Osenia Kronlund, etc. J'adore ça, j'ai même participé à des documentaires sur la ménopause, sur des trucs avec Ovidie, enfin avec des tas de gens, mais moi, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai la capacité, j'étais pas la plus jolie fille de l'école, mais j'avais un don dans les doigts. J'ai gagné à un moment donné le concours général, j'avais un don pour écrire. C'est quelque chose que j'ai et dont je me goberge pas, même si je suis très contente d'avoir ce don, bien sûr, je ne changerai pas pour d'autres choses, mais en fait, il me donne des responsabilités et des obligations qui sont qu'est-ce que tu fais avec ce don. Et quand j'étais enfant, où j'écrivais déjà beaucoup, quand j'avais, mettons, 13 ans, 14 ans, on me demandait ce que je voulais faire, je disais je voudrais être écrivain public. Et je pense qu'en fait, c'est ça que je suis aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends des sujets. Je ne les choisis pas comme un journaliste, mais je prends des sujets qui sont invisibles. Personne n'en parle.
Invisible.
Et je prends ce sujet invisible, par exemple les cheveux blancs. Les femmes aux cheveux blancs, elles ont toujours existé, elles ne m'ont pas attendu. Mais elles ne marchaient pas en plein milieu de la rue. J'ai pris ce sujet, j'ai dit, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. J'ai convaincu les gens que c'était beau. C'est pas beau sur tout le monde, il y a des gens qui ça va pas, etc. Mais j'ai convaincu que pour certaines personnes, c'était beau. Et j'ai donc évangélisé les gens sur les cheveux blancs. Voilà, c'est ça mon travail. J'avais oublié, peut-être évangile.
Vous avez évangélisé je vais jamais arriver à prononcer ce mot, les gens, mais en l'expérimentant sur vous quand même, parce que c'est aussi une mise en perspective, une mise en scène, un risque, une prise de risque.
Mais il faut des couilles dans la vie.
Oui.
Si vous dites juste les choses comme ça, ben ça marche pas. En fait, moi je crois qu'en fait ce qui fait ma particularité. Dans le monde de la littérature, c'est que c'est pas que je fais de l'autofiction, parce que en fait dans mes livres, dans l'envie, tout était inventé, quasiment, à part que ça m'est arrivé. Mais les personnages sont inventés, enfin, tout est inventé en fait. Même le retour à la vie sexuelle était inventé. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je travaille sur ce que c'est qu'incarner quand on est auteur, qu'incarner ce qu'on écrit. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à parler devant. C'est pour ça que ça marche, en fait, aujourd'hui. Mm. Mais je l'ai pas fait exprès. C'est que un jour, je me suis dit, je suis sur Instagram, j'écris. Comment ça marche, les deux, ensemble? Parce que ça marche pas ensemble, en fait. Alors, t'es instagrammeuse, on voit bien ce qu'on pense. Tout d'un coup, on est là. Et puis, t'es écrivain, tout d'un coup, t'es là. Ou t'es écrivaine, t'es là. Alors après, y a toujours des gens qui veulent vous mettre dans un camp. J'ai essayé de réunir. C'est pour ça que j'ai écrit sur Instagram. Au moment où je suis arrivée sur Instagram, personne n'écrivait sur Instagram.
Après, il y a un petit côté schizophrénique chez vous, parce que vous êtes quand même chroniqueuse, puisque vous ne vous définissez pas comme journaliste, mais de mode.
Oui, je suis critique de mode, oui.
Critique de mode, et à la fois, vous avez effectivement, comme vous dites aussi, les couilles d'écrire sur les rides, d'avoir un parti pris très décalé.
Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça peut donner l'impression d'une schizophrénie. Mais en fait, c'est parce que je pense que les vêtements, c'est lié à tout ça.
C'est l'apparence.
C'est l'apparence, voilà. Vous voyez, vous êtes d'accord. C'est lié à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le vieillir, hein, si on n'est pas aidé par les vêtements, c'est une chose terrible. Plus terrible encore, parce que c'est, on va pas nier que c'est pas non plus totalement glop comme on disait dans Pif Gadget. Donc c'est une chose terrible. L'allure, l'élégance, la conscience de soi, que c'est beau ce qu'on est, ça aide et ça fait partie de la mode en fait. C'est pour ça qu'en fait pour moi tout ça c'est un peu la même chose.
Ouais, mais c'est très futile au final. Alors que effectivement, on va dire se démarquer de la vieillesse, se libérer de la vieillesse, de la désirabilité. Vous avez quand même écrit un livre sur le naturisme aussi. C'est très philosophique. Donc on est sur deux quand même.
Et parce que pour moi la légèreté on en manque. Et surtout en ce moment, et en fait, on est tout le temps emmené par le fond, tout le temps, et par le fond, je veux dire aussi dans le trivial. C'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer dans l'envie, c'est que l'envie, on m'a dit, c'est un roman sur l'abstinence. Tout de suite, on me disait les mots, c'est vrai, on me disait des mots, voilà, l'absence de vie sexuelle. Ça commence comme ça, mon livre, hein. À une certaine époque de ma vie, dans une époque que je ne veux pas définir en nombre d'années, etc., j'ai vécu peut-être la pire insubordination de notre époque, qui est l'absence de vie sexuelle. Donc, je l'ai écrit moi-même. Mais à part cette définition que j'en donne, tout le livre, rien n'est trivial en fait. Tout est fait pour redonner sa dignité à notre libido en fait. Donc, redites-moi ce que vous me demandiez.
Si vous étiez schizophrène, un truc comme
non,
ça.
Je sais pas. Non, on était passé sur autre chose.
Ah, la futilité,
voilà, la légèreté, je pense qu'on en manque.
Finalement, la morale philosophique de ce livre sur...
Je pense qu'on a besoin de légèreté. Et j'ai aujourd'hui un écho, alors je vois bien, je suis venue sur la pluie à pied, j'ai trois personnes que j'ai croisées qui m'ont arrêtée, et je vois bien que ces gens-là, ils ont une lumière dans les yeux, je vois bien que c'est... Il y a quelque chose en moi de très vivace, d'enfantin et de joyeux, qui leur plaît. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'important. On manque de gens comme ça, et je voudrais me cloner pour qu'il y en ait plein. Il y a des différents de moi, d'ailleurs, clonés complètement différents de moi, mais je voudrais qu'il y ait plein de gens légers. Et ensuite, pour la légèreté dans la mode, Lagerfeld disait « Je suis superficielle, mais enfin, il faut voir aussi la taille de la superficie. » Et c'est vrai que être superficiel, vous savez, quand on est plus superficiel, je raconte dans Grandir, un livre que j'avais écrit sur le moment où dans ma vie, j'ai dû m'occuper de ma mère, et où je me suis dit « Oh non, mais merde !» Et en fait, ça m'a fait grandir. Et ma mère, quand j'allais la voir à l'hôpital, et qu'elle était, elle voulait plus rien. Donc, comme vous savez tous que, à un moment donné, dans le très grand âge, quelqu'un dit non, non, non. Puis un jour, je suis arrivée, on m'a dit votre mère est revenue. Et je dis mais comment? Et en fait, je suis arrivée, elle avait quelqu'un qui lui faisait les ongles. Elle avait tout de suite demandé la manucure. Et elle m'a dit, je voudrais, j'ai dit à l'infirmière que je voudrais que tu ailles au Monoprix m'acheter une nouvelle chemise de nuit. Et en fait, ils m'ont dit, voilà, on sait quand les gens reviennent, quand ils s'intéressent de nouveau, alors coquetterie. C'est mon métier, la coquetterie. Ouais. Évangile de coquetterie.
Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait des rides avec ça?
Les rides, c'est bon. Les rides, c'est bon. Si vous allez sur au bord de la mer, là où on s'occupe des parcs à huîtres et que vous regardez les gens qui sont exposés aux intempéries, qui sont ridés, vous allez voir, vous allez tous les trouver beaux. En fait, si vous êtes libérés des injonctions qu'on vous donne, vous allez les trouver sublimes. Vous allez les trouver magnifiques. J'étais il n'y a pas longtemps à Manchester pour un défilé Chanel, et après il y avait certaines personnes, dont moi, qui pouvaient entrer dans un petit pub où il y avait Hugh Grant. Donc on s'approchait. Il est couvert de rides, Hugh Grant. Il est considéré comme sublime. Une femme qui aurait ces rides-là, elle ne serait pas socialement considérée comme sublime. À un moment donné, nos regards se sont croisés. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je le regardais, je me disais, bordel, mais qu'il est beau. Et lui, il me regardait, parce qu'en fait, c'est un professionnel. Il sait très bien que quand une femme le regarde, il faut qu'il attarde un tout petit peu son regard dessus, parce que c'est son métier. Mais moi, pas une seule seconde, je me suis dit, il doit me trouver belle. Si ça se trouve, il m'a trouvée belle. Mais j'en saurais jamais rien, parce que j'étais convaincue du contraire. Et j'avais à côté de moi une femme qui est un peu plus jeune que moi, mais surtout qui est un peu plus trafiquée et qui est blonde. Et je me disais, c'est forcément elle qui l'a trouvée belle. Parce qu'on est tellement conditionnés. Mais si ça se trouve...
Ça se trouve, il est...
Non, mais je sais pas s'il regarde cette émission-là. Mais si ça se trouve, il s'est dit, elle est belle. Et c'est pour ça que son regard s'est arrêté. Qu'est-ce qui nous emmerde là-dedans? Où est-ce que le truc marche pas? C'est qu'en fait, on est dressé à trouver que l'homme qui vieillit, c'est pas qu'il est beau, c'est qu'il est désirable. Et nous, on est là en train de se dire qu'on n'est pas désirable. Pourquoi on pense ça? On vient de me poser la question juste avant à l'interview. C'est qu'en fait, pourquoi on trouve que les chauves, un homme chauve de 60 ans ou 50 ans, pourquoi on trouve que c'est possible, érotiquement?
Parce qu'on les voit, c'est ce que...
Voilà.
On les voit partout.
Vous avez Ben Gazzara dans les films de Cazavetes. Vous avez Le Roi et moi pour les gens nés au 19e siècle avec Yul Brunner, mon enfance. Vincent Cassel qui n'a plus de cheveux non plus. Vous en avez plein. Les hommes chauves ont été dans des rôles où ils étaient avec des femmes qui tombaient amoureuses d'eux et qui les désiraient. Citez-moi un film avec une femme avec des cheveux blancs et des rides, où il y a un homme qui la voit et qui se dit je vais pas dormir la nuit tellement je veux faire ma vie avec elle. Ça n'existe pas. Il faut qu'on crée ces rôles.
D'où, c'est pour ça que vous avez posé nu à 59 ans, je crois, en une de Elle.
J'ai posé nu parce que j'avais écrit ce livre qui s'appelait Capitale de la douceur, qui raconte une femme qui se retrouve par hasard sur une île naturiste dans le sud de la France, l'île du Levant, et elle arrive et elle se dit, ça va être possible, là, tout le monde est à poil. Et en fait, le premier matin, ça m'est arrivé, elle se dit, en sortant de l'hôtel, parce que de toute manière, on peut mettre qu'un pareo, donc elle se dit, elle y va, toute nue. Et là, quand elle est toute nue, elle se rend compte de loin que les gens dans la crique, elle n'arrive plus à savoir si les gens sont jeunes, vieux, si c'est des hommes ou des femmes. Et tout d'un coup, elle voit tous ces corps d'hommes nus. Moi, j'avais jamais vu autant d'hommes à poil de ma vie. Surtout après avoir écrit L'Envie, vous pensez bien. À un moment donné, j'avais perdu tout à fait la mémoire à ce sujet. Donc, tout d'un coup, je voyais tous ces hommes nus et je voyais la douceur de leur corps. Je voyais la vulnérabilité de ce corps. Et tout d'un coup, je me disais, mais pourquoi on ne nous a jamais dit qu'en fait, il y a derrière nos vêtements, moi qui travaille sur le vêtement, pourquoi on ne nous a jamais dit que derrière, il y a cette vulnérabilité globale de tout le monde, en fait? Et donc, j'ai écrit là-dessus. Et quand elle m'a dit, on veut faire un grand sujet là-dessus, comment on pourrait exprimer, comment on pourrait est-ce que tu as des photos de toi à l'île du Levant? Il voulait aller me photographier à l'île du Levant. Je lui ai dit, ça va être totalement ignoble. Moi, courant dans les cailloux, à poil... J'ai dit, on pourrait faire des photos à la Irving Penn, là, vraiment des super photos, avec un super photographe, où je suis juste avec un vêtement à chaque fois. Et un vêtement à chaque fois, ils n'avaient pas compris que ça allait être juste une paire de chaussures. Et j'ai fait ces photos. Ils devaient faire la couverture avec. Puis finalement, ils ont réfléchi qu'ils n'allaient pas faire la couverture avec parce qu'ils avaient peur. Parce qu'en fait, ils avaient peur de parce que mes seins, c'est pas mal mon corps, mais bon, ça tombe un peu quoi. Bon, moi, je m'en foutais complètement, mais pas eux.
Oui, vous étiez plus à l'aise qu'eux, ouais.
Sur le. Quand j'ai fait la séance, vous savez, c'est quand même une journée entière. Il y avait quand même 10 photos. Ils étaient tous là, derrière des rideaux. Voilà, comme ça. Non, c'est pas des rideaux, là. J'étais derrière des rideaux, et puis moi, j'étais toute seule, et avec le photographe. Et le photographe, il voulait se mettre torse nu pour que je sois à l'aise.
Ah, il est sympa, quand même.
Ouais, ouais. Et j'ai dit, mais derrière, vous avez vos écrans, vous voyez tout. J'entendais, derrière, je dis, écoutez, c'est complètement stupide, enlevez-moi ces rideaux. Et j'ai dit, on va tous venir. Et je me suis foutue à poil, complètement à poil devant eux. J'ai dit, ah, maintenant, regardez bien. J'ai dit, on est sur une île du Levant, on est sur une île. Et je dis, c'est comme ça. Et oubliez tout ce que vous pensez. Moi, je m'en fous d'être à poil devant vous. Je m'en fous complètement. Et donc, on a fait cette série qui était géniale.
Alors, il faudrait qu'il y ait plus de femmes ridées en une des magazines, dans les films. Est-ce que c'est pas seulement les rides, finalement, c'est aussi comment on vit. Enfin, c'est aussi comment on vieillit quand on est une femme journaliste, présentatrice de télé. Enfin, c'est vrai qu'on.
Partout. Alors, ce qui est très juste que vous dites, il faudrait plus de femmes. En fait, ça vient, ça arrive. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, j'étais au défilé quand la Pamela Anderson est arrivée toute ridée. Pamela Anderson. Je veux dire, moi, je me pensais qu'elle était comme Madonna, Pamela Anderson, qu'elle voulait jamais voir la moindre ride sur son visage. Bon, ben, en fait, elle est arrivée en disant, moi, j'en ai marre. Au même moment, la même semaine, Isabella Rossellini, j'en ai marre. Tout le monde en a marre. Et des femmes qui se faisaient de la chirurgie esthétique en font plus. On voit des comédiennes, et ça je veux pas dire parce que je veux pas les stigmatiser, mais je sais qu'elles se faisaient des choses, mais tout d'un coup elles font plus, elles en ont marre, celle-là aussi. Dua Lipa, qui est une jeune chanteuse, elle dit, ben moi je renonce à la chirurgie esthétique. Allons bon, alors elle en faisait. Elle est toute jeune. Miley Cyrus, elle dit I used to be young. Parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est connue. Et elle s'exprime en disant « Je suis complètement effrayée, j'ai l'impression que c'est un métier où on ne peut pas vieillir et moi, je n'ai pas du tout envie de prendre cette voie. » Donc, en fait, il y a un mouvement qui se passe. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, si on n'arrive pas à comprendre, si on n'a pas de rôle au cinéma, et ces femmes, on ne va pas avancer. Donc,
Il faut aussi que ça change dans la tête des hommes, des producteurs, des...
C'est pas, on n'y est pas.
On n'y est pas.
J'ai vu hier, j'étais à une avant-première de Priscilla, le film de Sofia Coppola. Et dedans, il y avait un documentaire juste avant, et on voyait des images, et il y avait ces images de ce film sublime, ça s'appelle Lost in Translation. J'étais frappée quand même dans ce film de l'âge qu'a Bill Murray, qui a quand même 60 ans, et l'âge qu'a Scarlett Johansson. Et donc, je me disais, ce serait intéressant de faire un film dans l'autre sens. Bill Murray fait aucun effort dans le film. Hein. Il est là, il est comme ça, tout mou. Bon, ben, une femme qui serait comme ça, un peu neurasthénique, toute molle, et elle se trouve devant Scarlett Johansson en garçon. Elle est devant Timothée Chalamet, voilà. Mmh. Et ils sont là, et en fait, il y a une histoire d'amour entre eux. C'est pas genre... Elle est encore plus chaude parce qu'elle est vieille, parce que c'est ça maintenant aussi qu'on fait jouer aux femmes au cinéma. C'est pas ça, mais ce serait extraordinaire. Mais même Sofia Coppola, elle peut pas l'imaginer.
Alors comment on fait du coup?
Ça vous coupe la chic, hein.
Ouais. Un peu, ouais. Alors comment on va résoudre cette affaire là? Il va falloir du temps encore.
Il va falloir du temps. Il va falloir qu'il y ait de plus en plus de femmes. Qui vieillissent et qui soient heureuses.
Et c'est ça, c'est comment, oui. C'est... Et être heureuse de vieillir, déjà, c'est pas donné à tout le monde, quand même. C'est pas juste une histoire de ride.
Ben, il y a une phrase de Paul Newman. Attendez, est-ce que c'est Paul Newman? Je crois que c'est Paul Newman qui dit « Vieillir, c'est pas pour les mauviettes. » Et c'est pas pour les mauviettes de vieillir. Et... Parce que vous pouvez le nier, vous pouvez vous mettre... Vous pouvez vous mettre... Et puis moi, encore une fois, je le dis tout le temps, jamais, chacun fait comme il veut. Il y a des gens, ils peuvent pas supporter, ils ralentissent au maximum. Une fois, Carla Bruni, elle m'avait dit, je me dis toujours encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, mais je comprends sa logique, elle est très belle, etc., je comprends. Mais elle croit quoi? Qu'il y a un précipice après? Qu'on tombe dans un trou? C'est pas si grave, en fait, de vieillir. Ben c'est ça, pas si grave.
Ça dépend sur quoi on a capitalisé. Quand on a capitalisé sur sa beauté, c'est compliqué, effectivement.
Mais elle, elle n'a pas capitalisé sur sa beauté que... Elle pourrait, elle a un talent fou, elle pourrait capitaliser sur autre chose. Donc, si vous voulez, c'est une terreur qu'ont les gens, que vous ne pouvez pas... que vous pouvez pas juger. C'est le portrait de Dorian Gray, son portrait de Dorian Gray, c'est son mari, qui est d'ailleurs très séduisant, et qui vieillit, qui a les rides à sa place. Ça, c'est son modèle. Et je vous dis jamais ça pour la juger, parce que c'est une femme que j'adore, que je respecte. Elle c'est sa solution. Ce qu'on veut, c'est d'autres solutions, c'est qu'on puisse nous en montrer d'autres. Et quand je dis, par exemple, que ces femmes qui se mettent plein de Botox, et qui font plein de gym, moi j'en connais plein, qui sont avec des corps. Je sais, quand on part ensemble à des... On fait dans mon métier beaucoup de voyages avec des défilés de mode, etc. On est toujours à un moment donné au bord d'une piscine. Il y en a toujours une qui se met en maillot et on fait... Ah non, mais c'est pas vrai, quoi. Elle est sublime. Parce qu'elle y passe sa journée. Il y a des injections dans le genou, si vous voulez. Donc, elle est effectivement, parce qu'elle y met beaucoup d'argent, magnifique. Bon, cette femme-là, elle fait ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas ça qui vous rend heureux. Si ça se trouve, ça fait naître une terrible angoisse. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse. Ça m'est égal de vieillir. Enfin, ça m'est égal. Je peux rien y faire. Donc, comme j'ai été élevée par une mère qui disait, on va quand même pas s'emmerder pour des choses contre quoi on peut rien faire. Donc, je peux rien y faire. Mais en revanche, je peux faire quelque chose pour être heureuse. Je peux faire quelque chose pour me tenir droite, que je ne me tiens pas droite, ça, je veux bien faire cet effort de réfléchir à ça. Je peux être propre, je peux être coquette, je peux faire un certain nombre de choses, je peux ne pas être méchante, pas canceller tout le monde à la mitraillette. Je peux faire des choses qui vont faire que je vais mieux vieillir.
Et alors, ce que vous dites dans le fait de effectivement bien se tenir ou bien se vêtir, en tout cas, c'est aussi ce que vous transmettez, parce que vous donnez des cours dans une académie de mode, c'est ça? Vous êtes prof de mode
à l'Institut français de la mode, la plus grande école de mode en France.
Et vous avez créé un cours un peu sympa. Dites-nous, c'est l'Ego Academy, c'est ça?
Oui, The Ego Academy, c'est un cours que le master dont je m'occupe. Pas moi, mais où je travaille, c'est un master de design. Donc, c'est des élèves qui vont devenir directeurs artistiques, comme dans les écoles de graphisme et tout ça. C'est des élèves qui viennent du monde entier. Il y a 18 élèves par année. Ça fait 3 ans que je le fais, 4 ans. Et je leur apprends à, on dirait dans un truc de marketing, à gérer leur ego. Mais je leur apprends qu'est-ce que ça veut dire de se montrer, qu'est-ce que ça veut dire de parler de soi. Parce que j'ai remarqué que tous ces jeunes qui vont se retrouver dans des métiers où, en fait, il va falloir qu'ils arrivent à se vendre, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, eh bien, ils sont terrorisés sur les réseaux sociaux. Ils postent des saucisses, une soirée où quelqu'un est bourré. Enfin, ils ne savent pas quoi poster. Et donc, je leur dis, la première chose que va faire votre employeur, c'est aller regarder. Alors, ils peuvent avoir deux comptes, hein, un avec les saucisses où ils sont bourrés, et un autre. Mais je dis, ils vont aller regarder comment vous montrez votre rapport au monde. Et si c'est juste saucisses, c'est bourré, c'est pas génial. Donc, il faut. Qu'est-ce que vous allez montrer de comment est-ce que vous analysez quel est votre rapport au monde? Je leur apprends ça. Mais j'ai beaucoup à faire parce que, comme je le montrais tout à l'heure à quelqu'un, là, je leur ai donné comme exercice la semaine dernière de. Je leur ai dit, vous allez aller trouver un autoportrait, un portrait du passé, et vous allez vous insérer votre image dedans, et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce mélange, pourquoi vous avez mélangé la jeune fille à la perle avec votre visage, un portrait d'un Rubens, d'un Angelot avec votre visage. Parce que je prends des exemples de ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont travaillé, c'est très intéressant. Il y a une fille, elle dit, moi, je pense que je suis née dans la peau d'un garçon, donc elle se met en Oscar Wilde. Enfin, moi, c'est très intéressant. Comme ils sont en graphisme, ils le font très bien. Et il y a une élève, elle a demandé à l'intelligence artificielle de la transformer en un tableau de Otto Dix. Alors, le résultat, il est éblouissant, mais elle n'a rien fait. Donc, en fait, c'est ça, l'Ego Academy, c'est de lui dire... Il me manque que tu m'expliques pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, quelle photo de toi, de quoi tu es parti, de quelle photo de toi. Parce que sinon, ce que tu me prouves, c'est que tu es dans l'Institut français de la mode, tu vas être diplômé, mais surtout que je ne t'embauche pas, car je peux appuyer sur un bouton et appuyer sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est à ça que je sers. À leur apprendre à avancer un peu d'eux-mêmes dans leur travail. Et très souvent, les gens qui disent « moi, je ne veux pas me montrer » sont bourrés de narcissisme. Ils ont tellement peur d'être ridicules qu'ils ne se montrent pas.
Tandis que vous, vous aimez bizarre. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais vous avez ce décalage, vous ne vous prenez jamais au sérieux. Enfin, on vous voit montrer vos achats de mode sur les réseaux sociaux et tout, avec un certain sens de l'autodérision. Enfin.
En fait, moi, j'ai l'impression, enfin, toute proportion gardée, que je suis un peu Shirley Temple, vous voyez. Ça fait tellement longtemps que je le fais que. Je veux dire, j'étais déjà, quand j'étais jeune, j'écrivais des chansons, j'ai travaillé dans une maison de disques, j'ai fait deux disques, tout en faisant mes études, parce que mes parents disaient, ça ne va pas faire un métier, donc il va falloir que tu sois prof de français, ou d'autre chose. Mais j'étais tellement habituée, je chantais à la guitare dans mon lycée, j'ai tellement été habituée à être le porte-parole, en fait, qu'aujourd'hui, ça m'est complètement naturel. Et j'ai même pas il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que c'était narcissique hein, sur un commentaire sur Instagram. J'ai dit bah oui, bah évidemment, le narcissisme m'a sauvé la vie. Il m'a aidé à me construire. Mais justement, aujourd'hui, je le suis finalement modérément. C'est-à-dire que c'est tout ça, ça sert tout ce que je suis et dans mes livres, c'est pareil, ça sert à essayer d'exprimer quelque chose qui va aider les autres et pas parce que c'est mon expérience. Essayer de comprendre des endroits où la société, elle a mal, qui on ne voit pas, que ça vaudrait le coup qu'on voit, voilà. Ah, c'est tomber sur les vieilles. Ça m'arrangeait bien, mais c'est aussi tomber sur ceux qui font pas l'amour. C'est aussi tomber sur ceux qui font pas qui sont mariés et qui font pas l'amour. C'est vaste groupe. C'est tomber sur tout ce que je me dis, un documentaliste ou caricaturiste, il le ferait, tu vois, dans mon journal, les gens le font, ils reflairent un sujet et ils font le sujet. Mais moi, je pense qu'on peut aller plus loin encore en inventant la solution du sujet. Si j'avais juste interviewé des femmes de 70 ans avec des rides en leur demandant comment elles se sentent, j'aurais eu une explication, mais Admira, c'est pas ça. Admira, pour maintenant pitcher, puisqu'on en est là, on en arrive. Admira, un homme la découvre dans le Péloponnèse et il est sidéré parce qu'en fait, elle est ridée et qu'il n'y a plus de femmes ridées sur la Terre dans 15 ans. Ça se passe dans 15 ans. Parce qu'en 15 ans, on a inventé un médicament, comme là, il y a l'Ozempic, un médicament qu'on a inventé, qui est en train de faire des ravages. On a inventé un médicament qui fait que ça vous régénère en collagène, il n'y a plus de rides. Et la place, ça a tellement de succès qu'on a baissé le prix, et il a été accessible à tout le monde et plus personne n'a de rides. Et elle savait pas. Elle savait pas pourquoi, parce que dans son village, pour dire juste le début du livre, on lui a pas dit. Et on lui a fait croire que c'était un parc national, et elle vit en fait enfermée dans un parc national dont on lui a dit que c'est plus la peine d'aller à la ville, oh là là, il y a que des cons. Et elle est restée enfermée, et ils ont voulu, les gens de ce village, avoir leur vieille. Parce qu'ils savent que c'est génial d'avoir une vieille. Parce que c'est super d'avoir une vieille. Et ils ont voulu avoir leur vieille, et malheureusement, leur vieille devient la femme la plus célèbre du monde, puisqu'on la trouve. Et c'est l'histoire de cette femme qui découvre la connerie humaine. Parce que si plus personne n'a de rides, allez, moi aussi j'aimerais bien que ce médicament existe, bah alors on va faire quoi? On va plus avoir de rides, on va mourir jeune. Mais on va tous être désespérés. C'est trop injuste. C'est trop injuste. Quand quelqu'un meurt jeune, on est bien d'accord, c'est une catastrophe. Donc ce qu'il faut, il y a longtemps, j'avais réfléchi à ça. Je m'étais dit, mais il y a très longtemps, mais quand je vous dis ça, j'étais ado, quoi. Je me disais, est-ce que la vie a un sens? Je me disais, mais je regardais ma grand-mère, je disais, mais c'est pas possible. Alors en fait, elle peut presque plus rien faire à part glisser sur ses chaussons pour aller manger des biscuits. Qu'est-ce que c'est, une vie de merde? Et en fait, je me disais, mais il y a quand même s'il y a un Dieu. Ou s'il y a un destin des hommes, des êtres humains, bon, ça pourrait être dans l'autre sens. On pourrait naître très vieux, complètement gâteux, on s'en rendrait pas compte. Hein. Au fur et à mesure, on serait de mieux en mieux. Bon ben, on arriverait à l'adolescence, on serait quand même un peu mieux, on serait comme mieux grand maintenant, etc. Et puis après, bon, on partirait, on serait plus jeune, de plus en plus jeune, ce serait génial, on aurait de plus en plus de force, on pourrait jouer pendant 10 heures au ballon, manger tous les bonbons qu'on veut. Puis après, on perdrait tout, on ne se rendrait pas compte, on devrait des petits bébés, on serait inconscient, on dormirait tout le temps et on mourrait. C'est pas dans ce sens. Il n'y aurait rien à comprendre. Parce qu'un bébé, il n'est pas en train de se demander. Enfin, il se demande ce qu'il comprend, mais pas le sens de la vie. Ben non, on a un truc à comprendre. Et parce qu'on a un truc à comprendre, on sert à quelque chose. Parce qu'on peut. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Et il faut qu'on puisse leur répondre quelque chose. Et si ce qu'on répond, c'est ben, je sais pas trop, c'est raté. Je suis de très bonne humeur, hein, malgré la flotte qui a envahi mon pantalon.
Pour autant, c'est pas une charge contre les chirurgies esthétiques. Ça, vous tenez à le dire. C'est pas. Vous en avez fait, vous, de la chirurgie esthétique? Vous avez essayé?
Non, moi, j'ai eu les oreilles recollées. Mes parents ne voulaient pas. Ça fait ton charme, ça fait ton charme, ça fait ton charme.
Oui.
Dès que j'ai gagné ma vie, je me suis fait recoller les oreilles. Et un jour, le dentiste m'a dit, j'arrive plus à manger tellement de bonbons Haribo. J'arrive plus à les dents devant. Il va falloir que je mette des facettes. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Mais j'ai rien fait à mon visage. Non, rien. Mais parce que j'ai... Alors, attendez, là-dedans, il y a quelque chose de très important à dire. C'est pour ça que je pense qu'on peut juger. On peut juger personne. Moi, j'appartiens pas au club des filles dont on a dit qu'elles étaient jolies toute leur vie. Les filles à qui on a dit qu'elles étaient jolies toute leur vie, quand elles commencent à moins l'entendre, elles se disent « merde ». Quand on vous l'a pas dit, ou quand de temps en temps, il y avait un miro qui vous le disait, ou quand vous étiez aimé, quelqu'un vous le disait, ou quand il y avait des gens qui trouvaient que vous aviez votre beauté, ou qui vous disaient cette phrase « moi, je te trouve belle », là, quand vous avez eu ça, vous avez appris à comprendre votre visage. Vous vous êtes pris en photo sous tous les angles, mais pas pour vous dire oh, « c'est inouï ce que je suis belle ». Vous vous êtes pris en photo pour dire « là, quand même, ça va, mais si, c'est bien ». Vous vous êtes revu sur des photos de vous jeune en disant oh, « c'était quand même pas mal ». Vous êtes en train de construire. Et donc, en fait, pourquoi vous allez aller vous figer alors que vous continuez d'apprendre? Vous continuez de comprendre votre visage. Moi, je veux être une belle vieille. D'abord, j'en ai vu, parce qu'en fait, il y a ça aussi. C'est pour ça que c'est important qu'Admira existe. Et c'est pour ça que tout le monde... Si vous avez... Vous savez tous qu'on a eu dans nos familles... Moi, je viens d'une famille qui était partiellement bourgeoise, mais en fait, qui avait quand même tout un côté très bourgeois, très... Donc, on était à Sainte-Maxime, dans une espèce d'endroit où il y a des riches qui sont un peu parqués dans des maisons. Et là, autour de la piscine, il y avait toutes ces femmes âgées, resplendissantes avec leurs cheveux, leurs petits cheveux un peu n'importe comment, à la Mick Jagger, toutes les rides bronzées, mais je les trouvais sublimes. Je n'avais qu'une envie, c'était de leur ressembler. Alors elles disaient qu'elles avaient toutes, leurs maris les trompaient parce qu'ils étaient déjà cons, ils n'avaient pas attendu maintenant. Mais elles se marraient quoi. Il y en a une qui disait, il y en a une c'est moi je veux pas vieillir. Il y en avait une celle-là, elle était toute refaite et l'autre disait ah non elle dit. Moi, je veux, je ne sais pas, vieillir, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est vivre très longtemps pour faire chier mes enfants. Là, elles étaient tellement drôles, tellement drôles. Et si on n'a pas ces modèles de ces femmes, et si on n'a pas le modèle de quelqu'un qui carrément décline et qu'il faut aider, alors, c'est pas du tout le cas d'Admira, hein, elle n'en est pas là. Mais comment on va apprendre ce que c'est la sollicitude? Comment on va apprendre, surtout dans un monde où on a de moins en moins d'enfants, donc on se crée tellement pas de problèmes, tellement pas de fil à la patte. Donc comment on va apprendre que faut s'occuper des autres? Bon, on va jamais savoir. On va mourir jeune et crétin.
Et le prochain sujet auquel vous avez envie de vous attaquer, sur peut-être, enfin, vous avez déjà réfléchi ou
Ben, je peux pas m'empêcher d'y réfléchir, mais je n'ai pas encore le sujet. Je peux pas m'empêcher de réfléchir parce que quand on écrit, on peut pas s'arrêter d'écrire. Donc on s'arrête par épuisement. C'est-à-dire que j'ai été épuisée d'avoir écrit un livre. C'est normal, tous les gens qui écrivent un livre sont épuisés. C'est très fatigant, on dirait pas, mais ça fait mal même aux muscles. Et puis après, vous avez la promotion, vous parlez de vous toute la journée. Là, c'est l'avant-dernière fois où je le fais, puisqu'après je fais à Paris dans une librairie. Et après, c'est fini, j'ai plus à parler de moi. Mon frère m'a dit, grand Dieu, grand bien te fasse, puisqu'il part avec moi en vacances avec des copains. Il m'a dit, il en peut plus. Il est obligé de regarder un peu les émissions et tout ça, donc il en peut plus. Et mes proches, ils en peuvent plus. Donc, à un moment donné, vous retombez dans le silence, ça fait beaucoup de bien, vous vous mettez de nouveau à écouter les autres, beaucoup plus que vous ne parlez de vous. Et là, le sujet, ça remonte à toute vitesse, mais il faut retenir. Il faut retenir parce que il faut d'abord, moi je dis à mon éditeur, il y a tellement de presse que maintenant quand je sors un livre, que je dis les gens, si je fais un livre tous les ans, ils vont dire payez-la, mais qu'elle ne revienne pas tous les ans. Donc je me dis j'ai du temps pour aller réfléchir. Ouais. Je crois que le grand sujet, parmi les grands sujets qui sont autour de nous en ce moment, mais j'ai déjà traité un peu dans Capital de la douceur, il y a que c'est cette idée de non-violence, c'est-à-dire que nous voyons en ce moment que il n'y a pas qu'une guerre, il y a plusieurs, déjà deux terribles, mais là il y a un conflit qui nous fait nous faire la guerre les uns les autres. Donc en fait, toute parole, mon père me l'avait dit, il était non-violent pendant la guerre, toute parole pacifiste, toute parole aimante et tendre est suspecte. Et mon père m'avait dit, pendant les guerres, quand on est au bord des grandes guerres et des grands conflits, et là, malheureusement, on est très mal, ben, les gens qui parlent de douceur et de paix sont considérés comme des lâches. Alors qu'au bout du compte, les gens, ils la font, la paix, à un moment donné. Mais ils sont considérés comme des lâches. Et c'est pendant la guerre du Vietnam, par exemple, il y a à l'expo de Viva Varda, là, à la Cinémathèque française, il y a une image de la guerre du Vietnam où il y a à la fois le sigle paix, qui balade comme un étendard, c'est une photo d'Agnès Varda, et à côté il y a quelqu'un qui dit bring them home now, exactement les trucs qu'on a maintenant, mais pour tout à fait un autre sujet, c'est ramener les soldats chez eux, ne les faites pas faire la guerre, et le signe de la paix. Aujourd'hui, si je poste ça, je vais me faire insulter en fait, parce que on considère que il y a toujours cette histoire que faut se défendre, qui a attaqué, enfin tout le monde s'engueule, quoi que vous disiez. Donc je pense que cette chose de nous désamorcer, de nous désarmer, est un moment très important, et ça m'amène à un autre sujet, mais qui là me ramène à l'envie. Donc si vous voulez, pour vous dire que j'ai pas encore trouvé complètement, mais que je trouve très important et qui est un peu lié, c'est que j'entends beaucoup parler de baiser, j'entends beaucoup parler chez les jeunes de ken, on va ken, j'entends beaucoup parler de cum, de meuf. J'entends beaucoup parler de consommation, de performance, mais j'entends pas beaucoup parler d'amour. Je vous parle même pas, oui, d'amour, mais de faire l'amour. Et faire l'amour, je pense que ça peut se faire. Même pas besoin de baiser, en fait. Faire l'amour, parfois, il y a des gens, ils se sont croisés dans un hall, et en fait, ça a régenté leur vie au niveau de leur désir, etc. Donc, je pense que il y aurait une rééducation. Enfin, il y aurait de nouveau à rappeler aux gens, puisqu'on parle des gens invisibles, que en fait, nous valons beaucoup mieux que ce que nous croyons du point de vue du désir, en fait.
Et de la chair.
Et de la chair.
Intéressant.
C'est de la non-violence aussi. Mais si ça se trouve, ça parlera tout à fait autre chose.
Et alors, j'avais envie de vous parler. Comment vous faites quand vous écrivez? Parce que vous êtes à 19 romans. Vous, le matin, vous allez à l'Obs, tous les matins?
Ah non, je ne vais jamais à l'Obs.
Ah non, vous n'y allez pas? Vous êtes chez vous en...
J'ai même pas le badge d'entrée. J'y vais deux fois par an.
Ah oui.
Non, je travaille de chez moi. Mais justement, parce que pour répondre à votre question, moi j'écris
à la maison
toute la journée.
Ah ouais.
Toute la journée. Et quand j'appelle toute la journée, c'est pas tout à fait vrai. C'est que j'écris, mettons, de 7h du matin à 11h, j'écris. Après je fais autre chose, et puis après je réécris un peu, et puis après je fais la sieste. Ouais, c'est ma vie, je travaille comme ça, et après j'ai des activités de mon travail, d'interview, d'aller voir des gens, d'aller à des dîners, de boulot, voilà. Mais moi, ma vie, c'est d'écrire. Et quand l'Obs a voulu me recruter, je leur ai dit, vous pouvez me demander d'écrire, vous pouvez m'appeler dans la nuit, parce qu'il y a un couturier qui meurt, quelqu'un, ou un événement, vous pouvez tout me demander. Mais me demandez pas d'aller à une réunion, quoi.
Oh, je vais mourir. Chance.
Je vais pas aux réunions.
C'est un luxe.
Voilà.
Ah ouais. Parce que vous avez besoin de.
J'ai inventé ma manière de travailler. Quand j'étais journaliste à Elle, j'étais la seule à être sur Instagram. Enfin non, il y avait une autre journaliste, d'ailleurs Lorraine Bastide, qui elle aussi a fait. Une très belle carrière grâce à ça, mais j'étais sur Instagram, et c'est Lorraine d'ailleurs qui m'avait dit de m'y mettre, qui me permettait d'avoir un accès aux autres, parce que vous savez bien que le problème de la presse féminine aujourd'hui, pourquoi la presse féminine aujourd'hui, elle ne nous parle plus ? Parce que tout simplement, elle n'a pas d'échange avec ses lecteurs. C'est-à-dire que quand vous avez un blog, ce que j'ai eu au début, et quand vous êtes sur Instagram, les gens, ils vous parlent. Si moi, je montre un look, quand vous disiez que je montrais ce que j'achète, c'est souvent des choses que je vais chiner, ou alors, de temps en temps, on m'offre des choses, c'est vrai. Ces bottes, on me les a offertes.
Le dernier, c'était un petit blouson en cuir de Manchester.
Ça, je l'ai acheté chiné à Manchester. C'est parce que je l'ai vu chez Phoebe Philo à 6 000 euros que je l'ai trouvé à 60 livres. Mais voilà, en fait, c'est quand je fais ça, les gens discutent, il y a un échange, et c'est cet échange qui m'a appris. C'est les gens, c'est pas moi qui ai observé, c'est les gens qui m'ont appris que c'était trop cher, qu'on pouvait pas s'acheter les choses, qui me disait mais toi t'es mince, ça te va bien, mais moi et qui m'a amené à réfléchir à pourquoi les gens sont là avec je comprends pourquoi, mais pourquoi ils disent je suis trop gros, pourquoi il y a ça, et c'est parce que j'ai été enrichie parce que les gens m'ont dit que hier j'ai interviewé Rosalie Varda pour le journal et que je lui ai posé la question sur Agnès, je lui ai dit, mais Agnès, elle se trouvait belle. Et elle me dit, non, elle s'est jamais trouvée belle. Et surtout, elle se trouvait grosse. Et quand elle était très âgée, elle avait les cheveux blancs. Et elle m'a dit, ça va pas. Je suis trop grosse. Je suis une vieille dame grosse et molle. Et elle dit, je vais aller me teindre les cheveux en aubergine jusque-là. Et je lui ai dit, mais t'es complètement folle. Et elle l'a fait. Elle lui a dit, je vais le faire. Je vais obliger les gens à me regarder. C'est génial. Mais je n'aurais pas eu l'idée de poser cette question à Rosalie Varda si je n'avais pas eu les gens qui m'avaient dit, vous voyez, c'est un échange. Je suis devenue ce que je suis devenue parce que j'ai un feedback des gens en permanence.
Et alors moi, j'aurais cru volontiers que les gens qui vous suivaient, il y a 300 000 personnes qui vous suivent sur Instagram. 350 000 sur Instagram. Les gens qui vous lisent, c'était des femmes. Et en fait, pas forcément...
Les hommes. Ouais. Au début, les hommes, ils avaient peur que je sois contre eux, comme on dit. Mais après, il y en a qui ont lu mes livres. Et ceux qui ont lu mes livres, ils en ont parlé à d'autres. Et mes livres sont faits que de... D'ailleurs, on me l'a pas mal reproché, dans certains milieux, des militantes féministes que par ailleurs, j'admire. Donc c'est... Mais Lorraine m'a dit, mais toi, t'étais trop indulgente avec les hommes. Parce que je disais à Lorraine, et j'ai encore dit ça aussi tout à l'heure à quelqu'un, j'ai dit, moi, tu sais, je suis faite comme ça. S'il y a 9 mecs qui sont terribles, s'il y en a un qui vaut quelque chose, je me dis, quand même, les hommes, ça vaut le coup d'y croire. Je crois que les hommes... Pourquoi les... Ce qui se passe, en fait, c'est que d'abord, on a tout autorisé aux hommes. Voilà. Quelqu'un a dit très justement, je crois que c'est Anouk Grimbert, Gérard Depardieu, il se croit tout permis parce qu'on lui a tout autorisé. Donc, voilà. Et c'est un monde d'hommes. Et c'est un monde d'hommes qui a tout autorisé. Donc, les hommes... Et aujourd'hui, les hommes, comme nous, on a fait quand même depuis un certain temps, ça fait depuis le début du XXe siècle que les femmes font des révolutions sur révolutions pour avoir des droits et tout ça. Les hommes, qui les avaient tous, les droits, n'ont pas vu qu'eux aussi, il fallait qu'ils fassent une révolution. Que pendant que nous, on n'a pas le droit de vieillir, ben, eux, ils n'ont pas le droit de ne pas bander. Donc en fait, il va falloir qu'ils apprennent qu'ils sont plus libres. Par rapport à toutes ces injonctions de masculinité, ils sont plus libres qu'ils ne pensent. Et que ça ne veut pas dire qu'on va en faire des femmelettes, puisque c'est leur terreur. Et il y a cette phrase dans Les Valseuses, au comble du bonheur, quand ils sont vraiment en train de se sentir le plus libre au monde, Depardieu et Devers se disent, on est bien là, on bandera quand on aura envie de bander. Ça, c'est l'image de la liberté. Et ce film qui est énervant sur bien des points... Eh ben, il dit quand même cette image de la liberté. Et ces deux hommes, qui sont deux asociaux, ils disent l'image de la liberté. C'est on bandera quand on aura envie de bander. Ça ne veut pas dire quand on aura envie de bander, on violera une femme. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire si on ne bande pas, ce n'est pas grave. Et ça, je pense que nous, on nous a dit si tu n'es pas désirable, c'est grave. Et eux, on leur a dit si tu bandes pas, c'est grave. Nous, on se libère. Les femmes, en fait... Ça va pas bien parce qu'il y a les inégalités, il y a plein de choses, mais on est en chemin. Les hommes, ils sont encore immobilisés. Ils sont pétrifiés. J'ai un cobaye, c'est mon frère, parce qu'il a 10 ans de plus que moi. Et alors, il a donc, moi j'ai 71 ans, et mon frère, quand il y a encore 2 ans, quand une fille avait 28 ans, il disait, elle a dû être bien. Au fur et à mesure, il a dû rabattre son caquet. Donc, il a dit 38, 48, maintenant, il arrive sur le 56, il y vient. Mais je lui dis, mais c'est sa miroir. Je lui dis, tu crois quoi, que c'est une crème anti-ride, une femme? Je lui dis, tu es là avec tes à essayer. Alors, puisqu'il faut anticiper celle-là, peut-être. Donc, je vais prendre le Viagra maintenant. Non, pas maintenant, parce que sinon, je vais. Enfin, il y a de quoi devenir fou, quoi. Il faut absolument libérer les hommes de ça. Qu'ils apprennent à nous gratter le dos. Et il se passera ce qui se passera.
Alors, la liberté, vous dites que ce que vous cherchez, finalement, c'est le bonheur et être heureuse le matin en vous levant, c'est ça, en fait?
Ouais.
En faisant ce que... Voilà. Est-ce que c'est pas ça, le secret du bonheur, la liberté, être libre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est
Trouver sa parcelle de liberté. Quand j'ai lu l'hiver dernier la très belle autobiographie, puisqu'on est dans une librairie, de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté... Ben, à un moment donné, quand il a quand même passé genre 36 ans en prison, ce homme-là, ou 26 ans en prison, il a quelque chose en lui, alors qu'il a même rien à écrire, il écrit sur du papier toilette, il a une parcelle de liberté. Tout le monde n'est pas libre comme je le suis, parce que c'est une vie particulière. D'abord, c'est une vie avec un truc injuste qui a un don dans les doigts. Mais tout le monde n'est pas libre comme je suis. Mais en revanche, on a tous une parcelle de liberté. Et quand je vois une copine l'autre jour qui était sur des talons hauts comme ça à Manchester sous la pluie et qui me dit c'est comme des chaussons en sortant de l'hôtel. Et après, je dis on va aller à l'autre vintage. T'es sûre? Elle dit. T'es sûre? Je fais écoute, on va acheter des Converse et on va aller à l'autre vintage. Non, c'est comme des chaussons. Elle peut pas marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, mais tu crois quoi, en fait? Peut-être qu'elle pensait qu'elle allait croiser Hugh Grant dans l'après-midi.
En même temps, il était pas loin, si j'ai bien compris.
Il était pas loin. Et à mon avis, il aime bien les femmes avec des talons. Mais il faut qu'il apprenne aussi.
Alors, une dernière question. Je crois que vous avez aussi écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Qu'est-ce que c'est cette chanson?
C'est marrant qu'on me parle de ça maintenant.
Que c'est que cette histoire?
Un jour, j'ai le producteur de Johnny Hallyday qui m'a appelé et qui m'a dit « On a parlé avec Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday, je la connaissais un petit peu, mais à peine. » Et il m'a dit « On s'est dit que ce serait une bonne idée que tu écrives une chanson pour lui. » Alors, j'ai dit « Alors, il a une idée de Johnny Hallyday, il veut dire... » à son fils que David, qu'en fait David lui rappelle Sylvie Vartan et que donc ça l'émeut. On a une musique, il m'envoie la musique et j'écris la chanson. Et donc j'écris, c'est pour Johnny Hallyday, hein, donc comment est-ce que dans tes yeux je vois son regard, enfin j'essaie de faire ça un peu bien. Et puis le refrain disait tu es elle. Et ça me tue que tu sois elle, mais c'est en même temps j'aime ça, etc. Alors bon, Johnny Hallyday, il écoute la chanson, il trouve ça bien. Et donc je commence déjà à dire à tout le monde que j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday.
La classe.
Et là, on m'appelle en me disant il y a un problème, Johnny Hallyday il s'est fâché avec son fils. Et il veut plus lui dire des choses gentilles, mais il aime bien dire tu es elle. Mais maintenant, il voudrait le dire à Laetitia.
Aïe, aïe, aïe.
Alors maintenant, mais comment il peut dire tu es elle à Laetitia?
Oui.
Et il aime bien aussi, dans tes yeux, je vois son regard. Alors au fur et à mesure, ma chanson devenait de plus en plus nulle. Alors c'était dans tes yeux, je vois dans leur regard, mais enfin, ça allait pas. Et puis je disais, tu es elle au pluriel, t'es toutes les femmes. Bon, il a adoré. Et quand il l'a enregistré, il paraît qu'il disait, tu es elle, je crois qu'il avait compris, tu es. Et voilà, mon aventure avec Johnny Hallyday, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'ai signé un contrat, parce que quand vous écrivez une chanson pour Johnny Hallyday, d'après ce que j'avais compris, vous cédez un peu de vos droits à Johnny Hallyday, parce que si vous laissez la gloire. Et j'ai gagné un peu d'argent, pas beaucoup, avec une chanson absurdissime qui est la plus mauvaise au monde, qu'on me met maintenant dans les radios. Je fais « Tu es elle !» Je veux... Alors, j'en avais écrit une plus belle, pour lui, qui disait « Est-ce que j'ai vécu sans savoir? Est-ce que j'ai vécu sans pouvoir? Est-ce que les autres m'admiraient? Ou est-ce que les autres existaient ?» J'avais vraiment chiadé mon truc. Et il a considéré que c'était une chanson pour des pédales, quoi. Ça ne plaisait pas du tout. C'est un drôle de gars, mais génial. Enfin, je vous dis génial, on dit, hein, parce que je n'ai jamais vu.
Comment vous voyez vieillir dans plus 10, ouais, 20 ans, je ne sais pas. Comment, est-ce que vous avez envie de vieillir comme admirat?
Je ne pense pas que je vais vieillir comme admirat, parce qu'admirat, elle vit isolée. Moi, je ne pense pas que je vais vieillir isolée.
Dans un paradis, elle
vit. Dans un paradis. Bon, j'aurais peut-être les moyens de la voir, mais je ferai des va-et-vient. Et quand j'avais déjà 40 ans, que je voyais Rod Stewart ou Hugo Frey ou Jean Ferrat, je me disais, voilà, je vais leur ressembler, en fait, quand je vais être vieille. Si maintenant, j'ai fait une fois sur Instagram, je me suis rajouté une moustache, c'était vraiment Jean Ferrat, quoi. Donc, déjà physiquement, je vois où je vais. C'est pas mal. J'aimerais bien vieillir. Physiquement comme Mick Jagger, c'est-à-dire être décati, mais rock, quoi. Ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien vieillir comme cette pauvre Farrah Fawcett n'a pas pu vieillir puisqu'elle est morte avant, c'est-à-dire avec les cheveux dégradés et comme j'ai là, qui est la coiffure de Farrah Fawcett. Et dans la tête, j'aimerais bien vieillir... Comme Agnès Varda, très bien vu. C'est-à-dire de foutre le bazar encore longtemps.
Eh ben, voilà. On est ravis que vous continuiez à mettre le bazar. Merci Sophie Fontanelle, merci d'être de cette rencontre. Et merci pour ce livre.